Vous écoutez
RMC.
Tiens, on accueille notre invité, ancien défenseur international belge, double champion de France avec l'AS Monaco. On l'avait aussi vu au Standard de Liège. Philippe Léonard est avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup.
Bonsoir.
Bah, un petit mot sur la composition. Finalement, peut-être dans la lignée de la deuxième mi-temps contre le Sénégal, quand De Bruyne et Doku sont sortis à la 56e. Des choix forts de Rudy Garcia, c'est comme ça aussi que tu l'interprètes, Philippe?
Ben oui, en effet. Je crois que il a fait un petit peu sur les derniers matchs, il a un petit peu pris en compte tout ce qui allait n'allait pas. Moi, je suis content de voir N'Goy qui revient dans l'axe de la défense. Donc, ça va nous amener un petit peu de un peu de comment est-ce qu'on dit. Moi, le fait de le revoir, j'étais déjà content. Je ne comprenais pas pourquoi il n'avait pas fait jouer lors du dernier match. Et puis, voilà. Après, c'est vrai que de Ketelaar devant, c'est pas un vrai neuf. Mais je pense qu'il va pouvoir nous aider quand même à faire le taf pour laisser la place à Roumelou et qui va peut-être jouer son rôle de sauveur comme il fait souvent.
Et sachant que N'Goy remplace Arthur Théâtre qui était titulaire au dernier match, l'ancien Rennais, est-ce que c'est clairement un moment de vérité pour les Diables Rouges, Philippe, parce que il y a ce miracle contre le Sénégal avec ce scénario, but de Lukaku, le sauveur Youri Tielemans. Là contre les États-Unis, il y a un côté bon. On va voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre cette équipe. C'est la bascule parce qu'une victoire, ça ferait que la Coupe du Monde pencherait plus sur une réussite, alors que si élimination ce soir, ça sera clairement un échec, Philippe.
Oui, on est d'accord, on est complètement d'accord. Nous, c'est vrai que on n'a pas la chance d'avoir un vivier comme le vôtre, qui est assez impressionnant. Mais voilà, on a des joueurs qui sont là, qui sont en devenir, et même si certains cadres sont là pour leur dernière Coupe du Monde, je pense qu'ils vont pouvoir aider les jeunes, faire le taf. Et puis préparer l'avenir. Donc c'est sûr que pour nous c'est important aujourd'hui. On a hâte de voir comment ça va se passer. On a quand même des objectifs assez importants parce que l'équipe est quand même intéressante, même si ce n'est plus la toute belle génération qu'on a connue. Mais bon, on a quand même du potentiel et j'espère qu'on va pouvoir le montrer ce soir.
On a quand même des choix qui sont très intéressants et très importants du côté de Rudy Garcia, qui est clairement dans la dynamique de tournoi. T'as la moitié de l'équipe qui est impactée avec Goy qui revient après son remplacement que moi je trouvais injuste par rapport au fait qu'il avait été expulsé. Ensuite, il y a Raskin que moi j'ai beaucoup aimé, qui faisait de bonnes rentrées, notamment dans des situations d'urgence. Et là, on a clairement l'idée de renforcer le milieu terrain. Il y a la main tendue qui est tendue justement à Onana. Onana qui a été plutôt décevant sur cette Coupe du Monde, mais qui aligne au milieu de terrain, sûrement pour matcher, notamment avec ce milieu de terrain US très athlétique. Et Luke Bakio, qui avait fait une entrée intéressante contre le Sénégal, qui a aligné à la place de Doku. Et par rapport au remplacement de Lukaku, j'ai plutôt le sentiment que, comme ce qui a été fait face à l'Égypte, face à Nouvelle-Zélande, face au Sénégal, on va beaucoup plus avoir un Romelu Lukaku en qualité plutôt qu'en quantité. S'il donne 30 minutes, ce sera déjà bien. Et Kevin De Bruyne, je pense qu'on sera sur la même logique.
C'est vrai, ce qu'on se dit, Philippe, est-ce que c'est la première fois que Rudy Garcia fait véritablement des choix forts et qu'on sent qu'il a vraiment la main mise sur ce qu'il veut faire avec cette équipe? Parce que c'est vrai que, alors il n'y a qu'une seule défaite, c'était le tout premier match contre l'Ukraine, mais les adversaires étaient allés plus ou moins modestes sur la vingtaine de matchs qu'il a disputés. Est-ce que là, on se dit, il s'impose vraiment comme un patron?
On est d'accord. Je crois que vous avez bien résumé la situation. Nous, on est content de voir cette compo. C'est sûr que de mettre Kevin De Bruyne sur le banc, ça nous fait quand même un petit pincement au cœur. Mais bon, voilà, c'est des choix forts de la part de l'entraîneur et on espère que ça va vraiment porter ses fruits ce soir.
Après, il faut être quand même honnête, hein. Je faisais le comparatif, avec l'équipe, la génération dorée de 2018. Alors attention, hein, cette équipe belge, elle mérite sa place, elle est où est-ce qu'elle est, mais quand tu regardes individuellement les joueurs, et sans leur manquer de respect, parce que c'est des très bons joueurs, mais à ce niveau-là, où est-ce qu'on sait que les équipes, même par exemple les États-Unis, c'est des joueurs de très très haut niveau, quand tu vois Castan titulaire, Brandon Mekele, qui est un bon joueur, mais qui est un bon joueur de la Jupiler League, N'Goy, qui est quand même assez nouveau du côté de la Ligue 1, en tout cas au LOSC, c'est ça vraiment sa première saison, où est-ce qu'il s'est imposé, cette, en tout cas avec le club de Ligue 1, alors Onana Tillman, c'est différent, que tu vois Luke Bakio, qui est un joueur confirmé, mais qui prend la place de coup. Raskin, on le rappelle, qui joue quand même en Écosse du côté des Glasgow Rangers. Je veux manquer de respect à personne, mais on est quand même sur un 11 de base qui est qualitativement parlant. En tant que Belge, j'imagine que quand vous faites le comparatif, ça doit quand même un peu vous chatouiller, vous dire ah ouais, on est quand même passé à côté de quelque chose en 2018. Parce qu'on va être très honnête, hein, encore une fois, c'est pas la meilleure équipe, c'est pas le meilleur 11 que la Belgique a connu sur les dernières années.
Non, mais aujourd'hui, moi, je pense que Maxime, c'est un passage obligé d'avoir cette équipe de transition et ne pas forcément s'attacher à la génération dorée. Moi, je pense que c'est ce qui t'a fait beaucoup de mal lors de la Coupe du Monde 2022 où t'avais été incapable de trancher. Déjà, Roberto Martinez, qui était le sélectionneur, n'avait pas voulu trancher. Il avait voulu relancer notamment cette génération dorée, mais qui était aussi vieillissante avec tout le reste. Respect qu'on doit leur donner. Là, cette fois-ci, Rudy Garcia, moi, ce que j'aime, c'est qu'il est dans l'initiative, il est dans le mouvement, il fait des choix. Il n'est pas sur des titularisations par décret, il est sur des titularisations où, clairement, il y a des joueurs qui marchent, qui performent, qui soient à la dynamique et qui peuvent impacter face aux États-Unis.
C'est un peu par défaut, je suis d'accord avec toi, Elton, mais c'est un peu par défaut. Quand tu remplaces Arthur Théâtre par N'Goy, c'est parce que tu n'as pas vraiment le choix.
Mm-hmm. Même si Philippe, on est mine de rien quand on voit cette compo. Alors elle donnera ce qu'elle donnera avec le coup d'envoi dans 45 minutes. Mais contrairement au Portugal qu'on a vu où il y a un Cristiano, on se dit, on se tourne un peu vers l'avenir en voyant aussi ces jeunes lancés par Rudy Garcia. Elle est pas que vieillissante, sachant que on est sur une espèce de ligne de crête entre une génération qui va partir et une autre qui doit forcément se créer sa place pour les années à venir.
On est d'accord. On est d'accord. Moi, où ça me pose un petit peu un problème, c'est au niveau de la ligne défensive. Quand je vois qu'à chaque fois il met Castagne, moi qui étais latéral gauche, Castagne qui est droitier, il a trois latérales gauches sur le banc et il met latéral droit pour jouer à la place de latéral gauche. Donc moi, ça me pose un peu un problème à ce niveau-là. Parce que comment est-ce qu'il s'appelait, Kuipers, n'avait pas fait de mauvais matchs, mais oui, voilà, les choix de l'entraîneur. On a le petit Morera aussi qui avait fait une toute grosse entrée lors du dernier match et qui lui aussi a montré que il avait les crocs, il avait faim et on avait besoin de joueurs pour pouvoir nous donner cet élan et essayer d'amener quelque chose de positif à cette équipe de Belgique. Et on a hâte que le match commence pour un petit peu voir ce que ça va donner.
Est-ce que la titularisation de Balogun, qui devait être suspendue, ça a été évidemment le feuilleton, ça peut clairement décupler la motivation de cette équipe belge. On a vu de communiquer de la Fédération Royale Belge, les ministres, la politique s'en est mêlée aussi, l'UEFA. C'est quand même quand on est joueur, on voit quelque chose comme ça. Dans la préparation, il y a forcément une influence là dans les rangs des Diables Rouges, Philippe.
Ben, comme quoi tout est possible. Maintenant, Si on gagne ce soir, ça donnera encore plus de saveur à cette qualification.
Non, mais c'est quand même paradoxal parce que Balogun, il est malgré lui le symbole d'une lutte de pouvoir. Dans l'absolu, le problème, c'est pas Balogun. En fait, le problème, c'est tout ce qui a été fait autour de sa suspension, non-suspension. Après, c'est vrai que ça peut décupler la motivation des Belges, mais en même temps, ça reste des joueurs, ça reste des compétiteurs. Ils le savaient déjà, les États-Unis seraient très compliqués. C'est l'une des équipes de cette Coupe du Monde 2026, l'une des équipes les plus dangereuses. Et du côté de la Belgique, la méfiance sera de mise. Alors, si en plus, il y a Balogun en tant que danger, oui, ça décuple la motivation.
Surtout qu'il y a une grande différence entre cette équipe américaine avec et sans Balogun, hein. Juste en pour plus, remettre dans le contexte, c'est déjà le meilleur buteur de cette équipe.
Tous les tous les regards, tout simplement Max, désolé, tous les regards, toutes les caméras sont déjà braquées sur Follarin Balogun. Lui aussi, il va avoir beaucoup de pression dans cette partie-là. Il est en train d'échanger des têtes avec Malik Tillman, en train d'essayer de s'échauffer normalement. Mais il a été filmé depuis l'intérieur du stade, dans les travées. Tout le monde lui a tapé dans la main. Donc certains pour lui dire des mots d'encouragement et d'autres peut-être pour lui mettre un petit coup de pression. Mais lui aussi, il va devoir être très, très solide dans cette partie pour supporter ce nouveau statut de joueur protégé par la FIFA.
Parce que Philippe, j'imagine que vous avez écouté un peu les médias belges. Enfin, ça doit être tout le monde crie au complot, à l'injustice.
Exact. Mais tout le monde était un peu étonné de voir ce revirement de situation. Mais bon, voilà, on s'adapte. On n'a pas trop le choix de toute façon. On laisse les instances discuter entre elles et voir éventuellement si c'est logique ou pas logique. Mais nous, de toute façon, on doit prester et essayer de neutraliser parce que c'est leur meilleur joueur, quoi qu'il en soit. Et après, essayer de faire un grand match, tout simplement.
Philippe, je voulais te poser une question aussi par rapport. Alors, on a un joueur qu'on connaît très bien du côté de la Ligue 1, Fernandez Pardo, qui a fait le choix d'ailleurs de choisir la Belgique comme équipe nationale. Qu'est-ce que tu en penses, le fait qu'il ait quand même très peu de temps de jeu? C'est un joueur qui peut être intéressant parce que notamment par rapport à ses courses dans la profondeur et qui permettrait aux Belges d'avoir un jeu vertical un peu plus important. Voilà, toi tu le vois comment, toi de l'extérieur, son adaptation et surtout voilà, est-ce que toi tu l'utiliserais pas plus si tu étais sélectionneur de cette équipe belge?
Ah bah de toute façon, moi de Kittelaar, même si je l'aime beaucoup, je l'aurais pas mis en tant que neuf. J'aurais mis Pardo directement parce que c'est l'attaquant qui doit remplacer Romelu. Donc autant commencer directement à le mettre dans le bain, à le mettre en titulaire pour ce genre de match. Parce que même si de Kittelaar nous rend service pour le moment dans cette position, on sait que c'est pas du tout sa meilleure position. Donc pourquoi pas ne commencer avec un petit jeune comme Pardo qui lui va montrer qu'il a les crocs aussi et qu'il peut rendre beaucoup de service à l'équipe nationale.
Non, mais aujourd'hui il y a clairement une volonté de Rudy Garcia dans l'utilisation de Kittelaar. C'est davantage un faux neuf qui va se connecter au milieu de terrain et Luke Bakio, Trossard vont être chargés d'attaquer l'espace, d'être les garants de la profondeur. Donc ce rôle de milieu de terrain supplémentaire, de quatrième milieu de terrain, ça pourrait avoir son importance face au milieu de terrain renforcé des États-Unis. Et ensuite, en regard notamment de la situation sur la seconde période, il y aura un Romelu Lukaku dans un rôle beaucoup plus traditionnel, ou alors un Fernandez Pardo pour attaquer les espaces. Mais moi, j'ai vraiment dans cette idée que de Kittelaar, il peut aider notamment dans ce rôle de quatrième milieu de terrain.
Et évidemment, on a vu Rudy Garcia faire énormément de changements. Après, il y a le physique aussi, hein. Philippe de Kettler fait plus +1m90 aussi sur coup de pied arrêté. On sait que la marge est pas énorme, hein. L'écart, le niveau, c'est presque du 50-50 entre les États-Unis et la Belgique ce soir.
La dernière fois qu'on les a joués, je crois que le score était 2-5, oui. 2-5 pour nous, en notre faveur. Donc, on connaît l'adversaire. Donc j'espère que l'équipe qui va être mise en place aujourd'hui va pouvoir répondre présente et que tout va bien se passer.
C'était d'ailleurs le problème des États-Unis pour les avoir bien suivis. Alors ils avaient du mal à passer ce plafond de verre, si je peux appeler comme ça, contre les grosses nations et notamment contre la Belgique, où est-ce que tu l'as très justement dit, ils en avaient pris 5. Mais j'ai le sentiment, depuis le début de cette compétition, c'est l'une des nations qui monte le plus en puissance. Voilà, il y a aussi un engouement. Comment ?
C'est le mot monte en puissance,
ouais,
très clairement.
C'est ça, exactement. Et puis tu sais, il y a un engouement aussi. Alors c'est drôle parce que nous on est arrivé pour couvrir cette Coupe du Monde. C'était en plein dans les finales NBA, notamment chez les Knicks, parce qu'on était placé à New York pour ceux qui ne le savaient pas. Donc c'est vrai que sur les premiers jours de cette compétition, on n'a pas vraiment senti l'engouement, en tout cas depuis New York. Et une fois que les Knicks ont gagné la finale NBA, et ben ça a complètement switché. Et tu vois de plus en plus de maillots USA dans les rues. Tu vois de plus en plus de bars qui sont privatisés, en tout cas qui sont pris d'assaut quand les Américains jouent. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté des États-Unis vis-à-vis de cette équipe-là. Et c'est vrai que d'un point de vue sportif, d'un point de vue terrain, moi c'est une équipe qui me plaît. Alors évidemment, il y a eu cette histoire Balogun. Je ne sais pas si ça va jouer en leur faveur. Je pense que même que ça risque de faire l'inverse. On va mettre cet aspect extra-sportif sur le côté. Mais clairement, cette équipe des États-Unis, je pense qu'il va falloir compter dessus. Évidemment, ça va passer par ce soir et avec un grand match contre la Belgique.
Merci beaucoup, Philippe Léonard, d'avoir accepté notre invitation. 1h20, les pauvres Belges, ils ont dû dû veiller tard hein, pendant cette Coupe du Monde, Philippe, hein, les horaires.
Oui, non, c'est pas évident. C'est vous qui m'avez réveillé, sinon j'étais déjà parti.
Bah, ça vient, il n'y a plus que 40 minutes. Et on espère que le match va, évidemment, nous tenir en haleine, mais très ouvert. Merci beaucoup, Philippe.
Bon avec match. Plaisir. Merci.
Toujours un plaisir, Philippe, qui a été entraîné par Didier Deschamps quand même à Monaco.
Moi, je me souviens, c'est mon premier souvenir de l'AS Monaco, le Monaco 2000 avec Barthez, Trezeguet, le champion de France, Claude Puel.
David Trezeguet.
Ouais, David Trezeguet. Exactement. Une défaite aussi en Ligue des Champions contre les Rangers. Mais en fait, c'est mes premiers souvenirs quand je parle de l'AS Monaco.
Je viens de Stéphane Porrato dans les
Stéphane
buts.
Stéphane Porrato,
aussi.
Ouais. Martin Gétou, parce que j'ai dit Martin.
T'as des souvenirs de ce Monaco-là, Maxime?
J'ai des souvenirs de ce Monaco là, peut-être un peu moins ancré que celle de d'Elton, mais moi alors Monaco c'est un peu plus tard, 2004, Julie Roten, Toto
Chevantone.
Ouais, c'est vrai.
Divayo après 2004, bah oui, évidemment l'équipe de 2004 qui sort le Real enfin la finale,
cette fameuse
évidemment.
Finale. Voilà, si on pouvait la refaire cette finale, non? Qu'en pensez-vous?
Enfin, oui. Après, c'est le début de la légende de Mourinho aussi, il y a plein de choses.
La fin de Morientes. Du exactement, grand Morientes. Ouais. Voilà.
Exactement. Bon, on voit les images, Aurélien, à Seattle, sur la côte ouest, au nord-ouest des États-Unis. Folarin Balogun, qui sera donc titulaire. Tiens, un petit rappel des compos, quand même, puisque c'est ce huitième de finale qui va débuter dans 38 minutes désormais.
Ouais, au Lumen Field à Seattle, grand soleil, c'est un des plus beaux stades, je pense, de la compétition. Tout le monde est relativement d'accord là-dessus, habituel stade des Seahawks. En NFL, donc Balogun, Pulisic, les deux attaquants américains. De toute façon, c'est la même équipe qui avait gagné contre la Bosnie-Herzégovine. Malik Tillman, Tyler Adams et Weston McKennie dans le cœur du jeu. Deux latéraux de piston, Anthony Robinson, le joueur de Fulham, côté gauche, Serginho Dest, côté droit, Alex Freeman, Chris Richards et Tim Rim dans l'axe de la défense. Matt prise dans les cages. Côté Belgique, Thibaut Courtois, 114e sélection dans les cages des Diables Rouges. Brandon Mekele et Nathan Ngoy en défense centrale. Timothy Castagne à droite et Maxime de Kuyper à gauche. Onana, Tillmans dans le cœur du jeu. Raskin, Trossard, Luke Bakio en soutien du grand Charles de Ketteler. 34e sélection. 6 buts simplement avec les Diables Rouges. Mais ce sera bien lui, l'avant-centre de la Belgique ce soir.
Allez, on revient dans un instant, la nuit de l'after, jusqu'à 4h du matin, ou plus, s'il y a affinité, s'il y a prolongation et séance de tir au but, avec Aurélien Thiersin au commentaire de ce match, Maxime Chano et Elton Mokolo, vous êtes bien sûr à RMC, il est 1h23 du matin.